autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous interroger sur le sens et l'essence des mathématiques avec un amoureux des mots et des maths. C'est le titre de l'essai de notre invité, le mathématicien et romancier Gérald Tenenbaum, spécialiste de la théorie des nombres, qui compte donc aussi sur les mots pour nous faire approcher les concepts les plus abstraits des mathématiques. De A comme absolu, à Z comme zéro, en passant par I comme infini ou R comme racine, combien de doubles, voire de triples sens se cachent derrière les mots qu'emploient les mathématiciens? Le sens savant aurait-il perdu le sens commun? Et pourrions-nous retrouver l'un à travers l'autre? Autant de questions littérales, linguistiques et mathématiques que nous allons soulever ensemble aujourd'hui autour de la question « Combien d'inconnus en mathématiques ?» Bienvenue. Bonjour Gérald Tenenbaum.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous pour cette exploration des concepts et du langage mathématique par les mots. Des mots et des maths, c'est le titre de votre essai « À nul autre pareil » qui nous permet, à nous profanes, d'aborder le mystérieux continent des mathématiques à travers les mots pour les dire. Mais avant, Gérald Tenenbaum, de lever un peu le voile sur ce qui nous échappe, sur le sens caché des maths, je propose d'abord un petit arrêt sur l'art et la manière de dire justement les sciences du côté de Dakar, au Sénégal, où se déroulait jeudi soir dernier, et c'est une première en Afrique subsaharienne, la finale internationale du concours Ma thèse en 180 secondes. Un concours francophone d'éloquence scientifique qui a vu s'affronter avec les mots sur la scène du Grand Théâtre National de Dakar, les 18 étudiants et étudiantes du monde entier ayant remporté la finale dans leur pays respectif, c'est-à-dire ayant brillamment et avec humour expliqué le sujet de leur thèse en 3 minutes chrono. Faut le faire, un vrai défi relevé cette année par de nombreuses étudiantes du continent, c'est à souligner, à commencer par Catherine Pendembaye pour le Sénégal de l'université Alioune Diop de Bambé, qui a assez logiquement remporté le prix du public, c'était à Dakar. Le deuxième prix est revenu à Tianiri Lalaina Andriama Pianina de l'université de Mahajanga à Madagascar. Désolé si j'ai écorché ton nom, Tianiri Lalaina. Le troisième prix est revenu au français Tom Ebarki de l'université d'Aix-Marseille. Quant au premier prix de la finale internationale de ma thèse en 180 secondes, il a été remporté haut la main par la belge Natacha Delrez de l'université de Liège pour « Il était une fois l'anguille ». Le virus et la luciole, tout un programme ambiant sur la scène du Théâtre National de Dakar, c'était jeudi dernier.
MT 180 est un exercice de communication pour présenter sa thèse en 180 secondes. Elle a pour objectif permettre aux jeunes chercheurs de toutes les disciplines d'acquérir et de démontrer de solides compétences transversales.
En vulgarisant et en communiquant, contribuer au développement des pays participants et plus globalement
à la valorisation de la communauté scientifique.
Susciter l'émergence de nouvelles générations de chercheurs scientifiques francophones.
Et leur offrir l'occasion de rencontrer des chercheurs issus d'autres pays et d'autres disciplines.
Intégration, promotion, ouverture, capitalisation.
Waouh! Natacha
Delrez.
Delrez, de l'Université de Liège, Belgique.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Imaginez-vous dans la peau du personnage central de mon histoire. Vous êtes une anguille. Vous êtes un poisson pas comme les autres. Et pour cause, votre vie commence dans un lieu mystérieux, la mer des Sargasses, située à plus de 5000 km des côtes nord-africaines, au cœur du triangle des Bermudes. Un premier voyage transatlantique vous amène dans les lacs et rivières d'Europe. Au cours de votre périple, vous risquez de rencontrer le deuxième personnage de cette histoire, votre ennemi. Un virus appelé Angulide Herpes Virus. Après vous avoir infecté, il ne vous quittera plus. Et de temps à autre, il fragilisera votre santé ou vous empêchera de nager correctement. Mon rôle dans cette histoire est d'étudier ce virus, connaître votre ennemi pour mieux le combattre et parvenir au but de ma thèse, développer un vaccin qui vous protégera.
Chana Rila Leina, Tantili Arian Mampa. Nina de Majorca, Madagascar.
Ma thèse, justement, s'intéresse à une plante, le Cladogelonium madagascariense, une plante endémique de Madagascar qui a été recensée lors d'une enquête dans le nord de l'île. les villageois l'appellent Tsunt et l'utilisent pour traiter tout ce qui est douleur, fièvre et enflure. Vu ses utilisations traditionnelles, j'ai alors émis l'hypothèse que la plante pourrait avoir une activité anti-inflammatoire. À partir de l'extrait le plus actif, j'ai pu isoler une molécule pure qui s'appelle DBFO et ce sera la star de ma thèse.
Cette plante anti-inflammatoire de Madagascar, l'une des stars donc de ma thèse en 180 secondes, le concours scientifique d'éloquence pour lequel vous pouvez, chers amis auditeurs et auditrices, d'ores et déjà candidater avec votre université, si vous êtes francophone, thésard ou thésarde, pour l'édition 2020. Rendez-vous sur le site MT180, ma thèse en 180 secondes. Le lien est sur notre page, qu'on se le dise. Autour de la question des maths et des mots aujourd'hui, c'est le titre de votre essai très original, Gérald Tenenbaum, qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Alors précisons que vous êtes mathématicien, professeur à l'Institut Élie Cartan de l'Université de Lorraine. Vos recherches portent sur la théorie des nombres, mais vous êtes aussi écrivain. 9 romans déjà à votre actif. Le petit dernier vient de sortir et il s'intitule « Reflet des jours mauves ». Il est paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Une double casquette donc, Gérald Tenenbaum, d'écrivain amoureux des nombres et de mathématicien amoureux des mots, qui explique peut-être en partie pourquoi vous vous êtes penché sur le sens caché de tous les mots qui comptent pour les mathématiciens.
Oui, tout à fait. C'est vraiment ce livre-là, c'est vraiment le lien entre mes deux activités. J'ai toujours réfléchi sur les mathématiques en tant que langage. Je me suis dit que je suis pas très fanat de la vulgarisation mathématique. Je pense que il n'y a pas vraiment d'amateur en mathématiques. On peut être amateur de peinture sans être peintre, on peut être amateur de boxe sans être boxeur. Je pense qu'on ne peut pas être amateur de mathématiques sans faire des mathématiques. Donc je suis pas très porté sur la vulgarisation. En revanche, je me suis dit que les mathématiques, c'est tout de même, c'est une science, c'est un langage, mais qui utilise en partie, il y a des néologismes de forme, donc on forge des nouveaux mots, mais il y a aussi des néologismes de sens où on utilise les anciens mots, c'est-à-dire les mots du langage courant. Et je me suis dit d'examiner le rapport qu'il y a entre les mots du langage courant et leur sens dans le langage des mathématiques pouvait être une porte d'entrée pour le grand public.
Effectivement, c'est une sacrée porte d'entrée. Par moments, moi, j'ai sauté s'il y avait des équations, mais par contre pour tout ce qui est des mots, je n'ai rien sauté du tout, parce qu'on sent bien aussi la plume du romancier derrière. Votre idée finalement, c'est de tisser des liens entre la représentation, l'abstraction, ces équations auxquelles nous on n'a pas accès, et le langage.
Oui, d'une certaine manière, je me suis dit que de parler de ces liens souterrains entre les mots des mathématiques quand ils sont issus du langage courant, eh bien, c'était peut-être aussi une manière d'explorer l'inconscient des mathématiques, voire l'inconscient des mathématiciens.
Explorer l'inconscient des mathématiques et des mathématiciens, c'est ce qu'on va faire ensemble, entre abstraction donc et langage, entre sens commun et sens savant, pour comprendre exactement sur quels mots comptent les mathématiciens, qu'ils en soient conscients ou non. On écoute le mix d'Hugo Violas, à la fois linguistique et mathématique.
Les maths, c'est une langue aussi, c'est un peu comme une langue, c'est une langue universelle.
Inconnu,
infini,
racine,
absolu.
C'est quelque chose qu'on peut utiliser pour communiquer.
Identité.
À travers tous les continents, toutes les cultures.
Harmonique.
Corps.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire le beau en mathématiques ?
2.
Espace.
Matrice.
0.
Dérivé.
Dérivé, tiens, voilà donc quelques-uns des mots des maths que vous avez choisis, Gérald Tenenbaum. Alors pourquoi ceux-là, ceux qu'on vient d'entendre ? Il y en a d'autres, hein, il y en a 30 en tout, mais
oui.
Il y a dérivé, il y a plein de mots à double, voire à triple sens, hein. Identité, racine, on y reviendra.
Bien sûr, j'ai cherché à interroger les mots qui ont justement le plus de connotations dans le langage courant et qui en même temps sont d'une utilisation quotidienne dans les mathématiques. Le mot dérivé, c'est un mot intéressant parce que déjà en français, donc quand on regarde l'étymologie étymologie du mot dérivé. On a à la fois le latin ripa, qui veut dire le bord, la lisière, et puis rivus, qui veut dire le ruisseau. Alors, dérivé, c'est à la fois ne pas s'écarter du courant principal, et en même temps, c'est un rapport avec le bord. Qu'est-ce qu'on fait du bord?
Et, oui, déjà, rien que dans le sens, on peut entrevoir quelque chose.
Voilà, c'est ça. Mmh. Et donc, un bateau à la dérive, donc on pense à Rimbaud, le bateau ivre, quelqu'un qui est à la dérive, c'est quelqu'un qui ne suit pas le chemin qu'on avait tracé pour lui.
C'est une porte d'entrée, en tout cas, dans cette conception-là, c'est ça. C'est une porte d'entrée avec ce mot dérivé. Moi, j'ai envie, Gérald, de m'arrêter sur un autre mot, puisque autour de la question pourquoi tant d'inconnus en mathématiques, il y a ce mot d'inconnu. Il est extra, ce mot d'inconnu, à double, triple sens, à double, triple identité aussi.
Oui, oui. Genre. Alors, le mot d'inconnu le mot d'inconnu est particulier, mais le concept d'utiliser une inconnue en mathématiques dans un problème, de lui donner un symbole pour pouvoir travailler avec et finalement connaître ce qui n'était pas connu, ça c'est une audace intellectuelle extraordinaire qui a mis des milliers d'années à cristalliser dans la pensée humaine. Alors c'est vrai que j'ai réfléchi en particulier sur le fait que l'inconnu au masculin et l'inconnu au féminin n'ont pas du tout les mêmes connotations. Au masculin, c'est la peur de l'inconnu, c'est la fascination de l'inconnu, c'est l'épouvante, alors qu'au féminin, c'est le fantasme. Donc on pense à Verlaine, une femme inconnue et que jamais qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et qui m'aime et me comprend. Donc effectivement, en mathématiques, cet inconnu qu'on désigne toujours par la même lettre, qui est X, on peut prendre évidemment XX, c'est aussi le féminin. Elle n'est jamais tout à fait une autre, puisqu'on la désigne par la même lettre, et en même temps, elle n'est jamais tout à fait la même, puisqu'elle change de valeur pour chaque problème.
Et est-ce que c'est là, en l'occurrence, c'est le mathématicien qui nous parle de l'inconnu, ou c'est le grand amateur de poésie et de Verlaine? Parce qu'on a l'impression que les deux sont pas loin. Hein.
Les deux sont intimement liés. C'est-à-dire que le fait d'avoir choisi en mathématiques d'employer le féminin pour une inconnue, je pense, résonne dans la tête des mathématiciens de manière différente d'un mathématicien qui penserait dans une autre langue et pour lequel, en anglais, unknown, il n'a pas de
genre. Il y a moins d'imaginaire derrière.
Il y a moins d'imaginaire.
Moins de mystère,
Absolument. Donc l'inconnu UE en mathématiques, en français, elle témoigne d'une sorte de permanence de l'incertitude. On a cette double allégeance qui est chantée par Verlaine. On va de l'ignorance au savoir, avec une sorte de familiarité, une sorte de soin que l'inconnu nous apporte.
Finalement, vous passez par les mots, par ce double sens des mots, pour nous faire atteindre le sens profond des mathématiques, parce que en lisant moi le chapitre I comme inconnu, j'ai un peu mieux compris ce que c'était qu'une inconnue. Je trouve ça plus beau. Enfin, l'inconnu, elle est bien plus belle après vous avoir lu, en tout cas, Gérald Tenenbaum.
Oui, alors je ne cherche pas à faire des mathématiques au lecteur, mais à essayer de comprendre comment les mathématiques ont pu puiser dans ce creuset commun qui est le langage pour forger leur propre concept.
Oui, et leur propre langage aussi autour de la question pourquoi et comment dire les maths en mots ou comment dire les mots des mathématiques. Une nouvelle question pour vous, soulevée par Antoine Petit, le président du CNRS, qui est entre autres agrégé de mathématiques.
J'ai fait un petit peu de maths quand j'étais petit, et même un petit peu beaucoup, et donc j'écouterai l'émission avec grand intérêt, parce qu'au fond, mon interrogation personnelle, c'est est-ce qu'on comprend les maths avec des mots? Est-ce que justement, c'est pas autre chose, les maths? Moi, j'avais l'impression que c'était plutôt ça, et donc c'est pour ça que je suis vraiment intéressé par comprendre si vraiment on peut exprimer les maths avec des mots, ou si finalement, c'est deux univers différents. Et que précisément, les gens qui sont, entre guillemets, bons en maths, c'est des gens qui ont accès à un univers qui n'est pas dissible nécessairement avec des mots.
Que pouvez-vous vous répondre, Antoine Petit, Gérard Tenenbaum?
Alors, je dirais que les mathématiques, contrairement à d'autres sciences, sont un langage, alors que bon, la physique, la chimie, la biologie sont des sciences qui s'expriment à travers le langage. Elles forment des concepts nouveaux, mais elles sont dans le langage, alors que les mathématiques sont un langage. Donc, elles s'expriment évidemment par des mots, mais dans le langage des mathématiques. Quand on dit un cercle est l'ensemble des points équidistants d'un point donné, eh bien, c'est une définition qui s'exprime par une phrase, mais chacun des mots de cette phrase lui-même nécessite une définition mathématique. Bon, il faut dire ce que c'est qu'un ensemble, il faut dire ce que c'est qu'un point, il faut dire ce que c'est qu'une distance. Donc,
ce serait quoi la science, comment dire, la seule science au fond qui est vraiment un langage ou qui sert aussi de base d'ailleurs aux autres sciences?
Qui sert de base aux autres sciences, mais qui est un langage par elle-même. Donc même si je ne pense pas qu'on puisse expliquer les mathématiques par des mots, on peut faire des mathématiques et utiliser des mots. Quand on voit des mathématiciens qui discutent entre eux, ils utilisent des mots, ils font des petits dessins. Rarement, ils ne parlent pas mathématiques, je dirais. Mmh. Bon, ils écrivent rarement des équations. Donc, je dirais que les mathématiques, c'est une construction langagière qui est greffée sur le langage courant qui fonctionne comme tout langage avec ses propres règles, avec ses interdits, sa grammaire, le principe d'identité. Par exemple, le principe d'identité en philosophie, on dit ce qui est, ce qui n'est pas. C'est-à-dire que dans un discours mathématique, si vous employez un terme, vous devez l'employer dans le même sens tout au long de la démonstration. On ne peut pas glisser de sens comme on peut le faire dans le langage courant, comme on peut le faire en poésie, comme on peut le faire
Attention au jeu de mots.
Voilà. les mathématiques ne peuvent pas se permettre des jeux de mots, elles ne peuvent pas se permettre des doubles sens, des triples sens ou des abandons de sens.
En revanche, vous permettez quelques jeux de mots, sens.
Bien sûr.
Et notamment, alors ça va être pour répondre à une question d'un de nos auditeurs qui est reprise par d'autres aussi sur les réseaux sociaux. Là, c'est Hervé Sima Yaoundé au Cameroun qui veut savoir ce que signifient les nombres premiers. Alors moi, je vais juste donner un indice à Hervé Sim, c'est que c'est dans votre livre Des mots et des maths, c'est la lettre D qu'il faut regarder, D comme 2. Et oui, c'est ça. C'est là où il faut aller à 2 pour comprendre les nombres premiers.
Alors effectivement, les nombres premiers, ce sont, je dirais, les briques de la multiplication. Bon, les nombres entiers que nous portons en nous, qui sont utilisés par tous les êtres humains sous toutes les latitudes et à toutes les époques de l'histoire, les nombres entiers sont extrêmement mystérieux. Alors on peut les additionner, on peut les multiplier. Pour les additionner, on part de 1, et puis 1 plus 1, ça fait 2, on ajoute encore 1, ça fait 3, etc. On peut parcourir tous les nombres comme ça. La question est, comment est-ce qu'on peut retrouver tous les nombres à partir des briques multiplicatives, des briques des atomes, disons, qu'on ne peut plus briser.
Des briques élémentaires qui seraient les nombres premiers.
Les briques élémentaires, et ce sont effectivement les nombres premiers. Alors, on donne toujours la définition d'un nombre premier, c'est un nombre qui n'est divisible que par lui-même et par 1. Mais 1 n'est pas un nombre premier. La raison pour laquelle ce n'est pas un nombre premier, c'est qu'on veut qu'un nombre soit représentable comme produit de nombres premiers de manière unique. Et si on mettait le nombre 1 dans les nombres premiers, on peut multiplier par 1 autant de fois qu'on veut, et donc ça serait pas, la représentation ne serait pas unique. Donc 2 est le premier des nombres premiers. Voilà. Et évidemment, il est le seul qui est pair, puisque ensuite, tous les autres, bon, s'ils sont divisibles par 2, ils peuvent pas être premiers. Donc ça lui donne une saveur particulière, et d'ailleurs, dans beaucoup de démonstrations mathématiques, le nombre 2 joue un rôle particulier, donc on est obligé souvent de faire une dichotomie, de séparer entre le 2 et puis les autres nombres premiers.
Et vous avez intitulé ce chapitre 2... Et vous avez même joué sur le mot « 2 », puisque vous dites « se souvenir de », mais « 2 » d'EUX, se souvenir de ces nombres.
Absolument. C'est pas seulement de se souvenir de tous ces nombres, parce que le « 2 », dans l'imaginaire, c'est le couple. Mm-hmm. Et donc, c'est le début d'une société. Et quand on est deux, déjà, il n'y a pas de majorité. Soit on est d'accord tous les deux, soit on n'est pas d'accord, et là, on arrive dans une situation de blocage. Donc, ce 2 qui est le, comment dire, le symbole de la société, eh bien, il m'a fait penser que à ces autres qui frappent à notre porte et qu'on
n'accueille pas toujours très bien.
Et qu'on n'accueille pas toujours très bien, qu'on n'accueille pas du tout. Et donc, le 2, pour moi, il est le symbole de des apostrophes.
Joli, joli. On se rend compte aussi que c'est la résonance des mots parfois qui vous intéresse ou qui fait travailler alors votre imaginaire à vous particulier, hein, celui de Gérald Tenenbaum, mathématicien et écrivain.
Tout à fait, oui.
On peut se tourner aussi vers la première lettre de cet ouvrage, la lettre A, comme absolu. Alors pour approcher l'essence ou le sens profond des maths, on peut aussi parler de ce qui est relatif et de ce qui n'est pas.
Oui, voilà. Alors c'est vrai que le mot absolu il a déjà plusieurs sens en français. Il vient du latin absolvere, mais qui est au départ qui est détaché, délié, qui a un sens par lui-même, mais qui a fini par donner le sens de absous. Acquitté, parfait. Et donc les mathématiques finalement ont gardé plutôt ils ont écarté plus exactement le sens du détachement qui peut être marqué par une certaine intransigeance pour garder le sens de la pureté ce qui est absolu, la valeur absolue d'un nombre, finalement c'est ce nombre qui est privé du signe. Et pour moi ça explique la fascination qu'on peut avoir justement pour le nombre entier, c'est-à-dire que moins 2, moins 2, c'est un nombre relatif, mais ce qui est absolu, c'est 2, c'est le concept de 2, ou moins 3, et c'est vrai que les mathématiciens ont mis assez longtemps à considérer, par exemple, les nombres négatifs comme des vrais nombres. Mm-hmm. Même dans l'encyclopédie de Diderot, on dit moins 3, ça ne veut rien dire. Au fond, si un homme a donné moins 3 écus à un autre, ça veut dire qu'il lui a pris 3 écus. Et donc, on ramène toujours le négatif au positif, mais le positif, on ne l'affuble pas d'un signe plus. Le positif, on lui donne une valeur absolue.
Et ça a changé. Est-ce que vous pensez aussi, Gérald Tenenbaum, que la manière dont vous penchez sur les mots des mathématiques permet aussi de comprendre, alors peut-être pas l'histoire des mathématiques, mais un certain cheminement quand même de la pensée des mathématiciens?
Oui, je pense que ça éclaire sur la manière dont un mathématicien pense. C'est pour ça que ce livre n'est pas de la vulgarisation mathématique, mais je pense qu'il donne une porte d'entrée sur l'univers des mathématiques et sur la pensée des mathématiciens.
Allez, on continue d'ouvrir les portes et les fenêtres sur l'univers et la pensée des mathématiciens autour de la question pourquoi tant d'inconnus et d'absolus en mathématiques. Je propose cette fois d'écouter les maths en musique avec Ben C sur RFI des mathématiques.
Des villes tracent des lignes sibylles, pas que Nazca, Gizeh ou tomberai-je toujours? Juste saurai-je sans peine la langue des phénomènes? Ah, si j'avais l'amour des mathématiques, des mathématiques, des mathématiques. Explique encore axiome, théorème et atome, clinamène, cli de Pythagore. Note-t-il les nombres d'or les fleurs, l'Holocauste, Oppenheimer, Docteur Faust et la poésie et la mort. Or, les mathématiques, les mathématiques.
Les mathématiques de Ben C, auteur-compositeur sur RFI, maths et musique, ont souvent fait bon ménage. Vous en pensez quoi,
Belle chanson, en tout cas. Et, j'ai deux réflexions qui me viennent à propos de cette chanson. La première, c'est la fameuse phrase de Galilée, « Le monde est écrit en langage mathématique ». Je pense que le monde n'est pas vraiment écrit en langage mathématique, mais notre compréhension du monde s'exprime à travers les mathématiques. Mmh. Et la deuxième réflexion, c'est l'interrogation qu'il y a dans cette chanson, c'est-à-dire qu'on veut comprendre, on veut comprendre le monde et ça passe par les mathématiques. Et la deuxième réflexion, c'est en écoutant le phrasé de la chanson, c'est que finalement, les mathématiques, c'est ma thématique.
C'est ma thématique, c'est votre thématique, oui, voilà, jolie. On voit bien que vous entendez avec vos deux oreilles grandes ouvertes. Gérald Tenenbaum, autour de la question pourquoi tant d'inconnus en mathématiques et de résonance, nous sommes en compagnie donc de Gérald Tenenbaum, mathématicien et romancier, qui nous dévoile à travers des mots et des maths, donc votre essai qui vient de paraître chez Odile Jacob, le sens caché, profond, voire l'inconscient des mathématiques et surtout des mathématiciens et mathématiciennes. Alors à ce sujet, une nouvelle question pour vous, Gérald Tenenbaum, soulevée par le philosophe Frédéric Worms, qui dirige l'École Normale Supérieure, l'ENS, et qui était récemment notre invité.
On dit souvent que les maths traitent des symboles ou des chiffres ou des nombres et se passent du langage naturel. En fait, ma question, ce serait inversement à ce que vous dites, que les mathématiques passent par les mots, mais est-ce que les mots influencent les mathématiciens ? Est-ce que l'imaginaire d'un mot, par exemple l'infini ou le zéro, est-ce que l'imaginaire de ces mots intervient dans le travail et peut même l'inspirer ?
Votre réponse, Gérald.
Alors, je pense que effectivement, je suis certain que l'imaginaire des mots influence la manière dont travaillent les mathématiciens. Et ça pose d'ailleurs un problème, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de mathématiciens francophones font faire des mathématiques en anglais, et donc le sens des mots ne va pas résonner de la même façon pour eux. Et donc, leur imaginaire, je pense, va être d'une certaine manière bridée, parce qu'ils ne pensent pas dans leur propre langue, ils pensent dans la langue de l'autre.
Et oui, l'anglais est devenu la langue des sciences.
Les mathématiques ont longtemps résisté, et pour finalement flancher dans les dernières années.
Et ça serait quoi là, en l'occurrence, peut-être une sorte d'appauvrissement, puisqu'on si on ne pense pas dans la langue, l'imaginaire ne va pas avec, c'est ça.
En français, par exemple, il y a une structure mathématique qu'on appelle un corps. Un corps, évidemment, c'est un mot qui résonne. C'est un mot qui est très fort. En anglais, c'est field, c'est un champ. Un mathématicien anglais ne va pas penser à un corps comme un mathématicien français qui pense au mot corps. Mais si le mathématicien français se met à penser en termes de field, il y a quelque chose de brisé.
Quelque chose de brisé dans le sens de l'intuition du mathématicien ou de sa recherche pure, c'est ça ?
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'un corps, on peut penser au corps du délit, au corps la définition du corps dans le code civil qui est inviolable, qui est indisponible. Et c'est vrai qu'en mathématiques, le corps, c'est quelque chose dont on ne peut pas sortir. Alors que d'un champ, il suffit de faire un pas de plus et on en sort facilement.
Et les liens qui peuvent se tisser entre un concept, une abstraction.
Je suis persuadé que quand les mathématiques utilisent des mots du langage courant, ça conditionne l'imaginaire et la recherche. Et donc, quand on se met à penser dans la langue de l'autre, on en paye certainement le prix.
Vous citez d'ailleurs en exemple un mot que moi, je n'aurais pas imaginé dans ce sorte de, pas de dictionnaire, mais de dictionnaire de mots des mathématiques, c'est le mot friable. Et justement, friable, c'est intéressant. Entre l'anglais et le français, il a fallu inventer un mot mathématique.
Oui, alors ça, c'est vrai que c'est une histoire tout à fait particulière, puisque bon, le mot, on avait besoin d'un mot pour désigner un entier rond, par exemple, comme 1000 ou 10 000, donc qui n'a que des petits facteurs, qui a que des petits facteurs premiers, et en fait, il se trouve que ces entiers ronds ou sans grands facteurs premiers ont eu une importance au milieu des années 80, à la fois avec le développement de l'informatique et le codage, décodage, la cryptographie, où il fallait effectivement factoriser des nombres, donc les nombres sans grands facteurs premiers étaient plus faciles à factoriser que les autres, et puis en même temps en théorie des nombres, du point de vue tout à fait théorique, avec une influence directe de cette théorie-là sur l'hypothèse de Riemann, qui est un des plus grands problèmes des mathématiques, si ce n'est le plus grand. Donc il a fallu à un moment donné, bon, sans grand facteur premier, c'est une locution, c'est trop long, il fallait trouver un mot. Et donc les Anglais, les Américains, ont trouvé un mot qui était smooth, lisse. Qui a immédiatement pris outre-Atlantique, donc les gens ont utilisé ce mot. Mais côté francophone, le mot lisse, d'abord, il correspondait pas du tout à l'idée qu'on se fait de ces mots-là. Il était
parce que smooth, il y a le côté rond, mais lisse, il y a déjà plus le côté rond.
Smooth, c'est régulier, mais en fait, ces entiers-là ne sont pas du tout réguliers. Et puis, il y a aussi le fait que smooth, c'est utilisé à tire-larigot en mathématiques dans des tas de théories différentes et donc, avec des sens qui étaient complètement différents. Donc, du côté des francophones, le mot smooth ne passait pas. Et donc, moi, je travaillais à l'époque tout à fait dans cette théorie et j'avais demandé à mon ami Michel Balazar s'il avait une idée. Et il a posé la question à son père, qui est un ancien polytechnicien, qui a immédiatement répondu friable. Et friable, ça correspondait tout à fait à l'idée qu'on peut décomposer en petits morceaux. Et le mot friable a immédiatement pris. Et puis il avait en plus l'avantage d'être le même mot en anglais et en français, puisque friable a le même sens, et s'écrit de la même façon.
Donc là, du coup, c'est francophone qui a inspiré les mathématiciens anglophones.
Voilà. Alors le problème, c'est que les Américains ont continué à utiliser le mot smooth, et donc dans la littérature, ils ont pris avec une certaine condescendance l'introduction du mot friable, mais il a fait son chemin, et petit à petit, 20-30 ans après, ce mot persiste, alors qu'on aurait pu penser qu'il aurait été complètement, qu'il aurait été passé par perte des profits, mais ça n'est pas le cas, et maintenant, pas mal de mathématiciens anglophones commencent à utiliser le mot friable en anglais, voilà.
Voilà comment on invente des mots, donc on en invente encore en mathématiques pour exprimer des nouveaux concepts. J'ai envie de revenir sur un mot, alors pour le coup, je ne sais pas si on parle d'invention ou pas, mais sur un mot à double voire triple sens et qui nous parle aussi aujourd'hui, c'est le mot racine.
Ah, le mot racine, oui, ça c'est évidemment, c'est un mot très, très, très important. La racine, c'est la source, c'est le fondement, c'est l'explication ultime. La racine carrée, en faisant des recherches pour l'écriture de ce livre, j'ai retrouvé un texte de Descartes où il disait que l'interprétation géométrique, carré, cube, etc., avait longtemps soutenu son imagination, mais finalement, il trouvait que ça la bridait. C'est-à-dire que penser à un carré à un nombre carré comme un carré géométrique ou un cube comme un cube géométrique, finalement, ça l'empêchait d'arriver à la nature profonde des choses. Donc, le mot racine, qui au départ était racine carrée, a gardé en mathématiques son sens de quelque chose de fondamental. Et c'est assez étonnant parce que, pour un polynôme, par exemple, qui est déterminé par ses racines, on continue à parler de racines, alors que la même notion appliquée à une fonction qui n'est pas déterminée, on parle de zéro. Les zéros d'une fonction, ça correspond au zéro d'un polynôme, mais dans le cas du polynôme, comme ça explique tout, on continue à parler de racines, alors que dans les cas des fonctions, on parle de zéro.
Et sur le zéro, un petit mot sur le zéro?
Ah, le zéro, le zéro, c'est quelque chose. Enfin, c'est un pas de géant dans l'histoire de l'humanité, parce que le zéro, ça veut dire déjà être capable de penser l'absence. Penser l'absence, c'est la fonction symbolique, c'est-à-dire imaginer, voilà, bon, dire voilà tel objet devant moi, c'est très facile, mais dire tel objet n'est pas devant moi, il n'est pas là, ça veut dire que je me le représente et que j'imagine sa présence alors qu'elle n'est pas là. Donc le zéro, bon, alors après il y a aussi le zéro de position pour, enfin bon, on est toujours dans la représentation de l'absence, et je crois que c'est vraiment c'est un des pas les plus importants dans l'histoire de la pensée mathématique.
Et ce qui nous prouve et qui nous montre aussi que la pensée mathématique n'est pas du tout froide comme on pourrait l'imaginer, mais qu'elle est pleine de toutes nos émotions. À ce sujet, je propose un nouvel éclairage original, celui d'un bouillonnant mathématicien américain d'origine russe, Edward Frankel, qui nous faisait partager ici même son amour quasi sensuel pour les maths. Amour et maths, c'était le titre de son ouvrage. L'ouvrage de ce mathématicien génial, polyglotte et un peu philosophe, Edward Frankel, sur RFI.
Mais en fait, les maths, c'est une langue aussi. C'est un peu comme une langue. C'est une langue universelle. C'est quelque chose qu'on peut utiliser pour communiquer à travers de tous les continents, toutes les cultures, à travers du temps. La première fois que j'ai tenté d'expliquer que les maths n'est pas exactement les choses que tout le monde pense. C'est, il y a la beauté dans les maths. Et je pensais que comment l'expliquer. Les mathématiciens vont à un tableau et écrivent les formules. Mais c'est un peu abstrait. Et je pensais que comment expliquer la passion. Parce qu'il y a beaucoup de passion quand vous essayez de trouver quelque chose comme ça. Parce que c'est vraiment la vérité du monde, la vérité de l'univers qu'on essaie de découvrir.
Que vous approchez.
Approcher, exactement. On approche l'infini, en fait. Je pense qu'on approche l'infini. Il y a plusieurs façons d'approcher l'infini. Mais les maths nous donnent une façon d'approcher l'infini. Et c'est pourquoi c'est très intéressant.
La passion du mathématicien Edward Frankel pour approcher l'infini. Mais au fond, tous les mathématiciens, ou presque, que je reçois, et vous entre autres, Gérald Tenenbaum, il y a une passion qui vous anime, c'est chaud, c'est bouillonnant.
C'est bouillonnant, effectivement. C'est vrai qu'on se représente souvent les mathématiques comme quelque chose de froid, de rigoureux, parce que les mathématiques s'expriment dans la rigueur, mais elles se fabriquent dans l'affectif, dans le bouillonnement, dans le fait de trouver un théorème ou ne pas le trouver et être dans la frustration, ça engendre des sentiments qui sont extrêmement forts, extrêmement violents. Et puis, dans ce que dit Frankel aussi, il y a la recherche de la beauté. C'est-à-dire qu'un mathématicien recherche... Enfin, je pense que les mathématiques sont une activité... C'est une science, mais c'est une science où on est en permanence dans la recherche de la beauté et de l'élégance.
La beauté et l'élégance, hein. c'est ce que m'ont dit d'autres grands mathématiciens. Et sur l'infini, au fait, alors approcher l'infini, c'est pas rien quand même, courir après l'infini.
Oui, alors l'infini...
Dit comme infini, c'est un des chapitres de votre livre.
C'est vrai, oui. Alors l'infini, ça a toujours fasciné les hommes, puisque, je veux dire, on est, par nature, nous sommes finis, nous nous voyons comme des êtres finis, mais notre pensée, elle, est capable de comprendre l'infini. Elle est capable d'agir sur l'infini. Rousseau disait « Tout ce qu'on appelle infini m'échappe ». Oui, mais tout de même, quand on pense à Pascal, l'infiniment grand, l'infiniment petit, la conscience de notre finitude, au fond, nous fait toucher l'infini. Donc, c'est le concept d'infini. D'ailleurs, bon, enfin, dans la théorie des ensembles, on est obligé de postuler l'existence d'un ensemble infini. Pour que la théorie des ensembles soit cohérente, puisque au début du siècle, enfin du XXe siècle, il y avait le paradoxe de Russell, etc. C'est-à-dire que la théorie naïve des ensembles est contradictoire, donc on a été obligé de fabriquer une théorie axiomatique, et dans ces axiomes, il y a l'axiome de l'infini. Donc on est obligé de postuler l'existence de l'infini.
Je propose maintenant, non pas de penser l'infini, mais de l'écouter avec la famille Chédid au grand complet sur RFI, à l'écoute de l'infini. Sur RFI avec la famille Chédid, c'est rien que pour vous. Gérald Tenenbaum, autour de la question des mots et des maths, pour reprendre le titre de votre essai très original dans lequel le mathématicien et romancier que vous êtes nous ouvre à d'autres sens profonds et cachés dans les mots des mathématiques. Que se cache-t-il derrière les mots des maths, derrière les mots des sciences en général et des mots de l'astrophysique en particulier? Écoutez voir ce qu'en dit l'astrophysicien Jean-Philippe Uzan. Lui aussi est un formidable passeur de sciences. Il était interrogé ce matin par Caroline Fillette en pleine répétition du spectacle théâtral et astrophysique 5 Terra Nuit plus 1 qui donnera au Théâtre de la Reine Blanche en novembre prochain. On l'écoute.
Cher Gérald Tenenbaum, j'ai vu vous intéresser aux mots des mathématiques. Alors en tant qu'astrophysicien, j'ai toujours pensé que les deux plus beaux mots qui venaient de l'astronomie étaient le mot désir et le mot désastre. Le mot désir qui est ce sentiment que nous avons quand il y a une absence d'étoiles, et le mot désastre qui nous dit vraiment ce qui se passe quand on ne voit plus nos astres. Quel serait pour vous le plus beau mot qui vient des mathématiques?
Est-ce que vous avez un mot préféré?
Alors je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que l'infini, par exemple en psychanalyse, est toujours associé au désir. L'être, c'est l'unité. Mais l'infini, c'est le désir. Et le fait que notre pensée soit capable de concevoir l'infini, est à relier à notre désir de comprendre le monde et à notre désir d'exister. Donc on a l'existence d'un côté et le désir de l'autre. Donc, le désir, malheureusement, n'est pas un mot mathématique, mais j'aimerais bien qu'il le soit.
Alors il y a un autre mot, je ne sais pas s'il est opposé à l'infini, mais il y a T comme terme, hein, le moyen de la fin, dites-vous.
Ah oui, T comme terme, effectivement. Oui. Le mot terme est très intéressant parce que, bon, déjà, c'est un mot qui signifie mot. Donc, et on sait très bien que quand le langage commence à parler...
Oui, un terme, c'est un mot, bien sûr.
Oui, un terme, c'est un mot. Quand le langage parle du langage, on arrive très vite à des contradictions logiques. C'est l'histoire du menteur qui dit « je suis un menteur », etc. Enfin bon. Donc, mais... Le mot terme vient en fait de l'époque romaine où il fallait limiter les champs Et donc, on a utilisé un petit dieu qu'on appelait Jupiter Terminus, qui était le fils de Jupiter, pour borner les champs. Donc finalement, le terme, c'est ce qui permet de finir. De finir. Et en mathématiques, c'est ce qui permet de définir. Donc le mot terme en mathématiques, c'est quelque chose qui est bien défini et qui doit, dans le langage mathématique ou dans une formule ou dans un discours, va toujours rester identique à lui-même et donc il satisfait au principe d'identité dont on a parlé tout à l'heure.
Eh oui, on y revient à l'identité, voilà. À l'infini. Est-ce que, alors là c'est une question un peu inverse, mais vous êtes romancier également, Gérald Tenenbaum, est-ce que les mots des maths ou l'imaginaire des mathématiques inspirent aussi alors, votre travail quand vous êtes romancier et que vous écrivez vos romans?
Alors oui, enfin certainement, en tout cas au niveau de la composition de mes textes, au niveau de la structuration ou des contraintes que j'utilise en littérature, les mathématiques interviennent. Mais ensuite, bon, évidemment, il faut laisser libre cours aux mots et à la parole.
Et du coup, est-ce que les mots, les paroles, est-ce que le fait d'être écrivain inspire aussi votre travail de mathématicien quand vous cherchez notamment, menez vos recherches sur la théorie des nombres, par exemple ?
Oui, c'est, quand on écrit un texte mathématique, on l'écrit avec des mots. Et plus les mots sont précis, plus le discours est bien structuré, et plus le texte mathématique va servir d'outil pour ce qui vient après dans la recherche.
Donc, l'un nourrit l'autre.
L'un nourrit l'autre. Et d'ailleurs, quand on pense aux grands mathématiciens du passé, au Lebesgue, au Poincaré, etc., ce sont des gens qui écrivaient de manière formidablement bien le français. Et c'est pas par hasard si ces mathématiciens ont été extrêmement productifs. Et c'est pour ça que je me pose toujours cette question de quand les mathématiciens français écrivent dans une autre langue, eh bien, je crois qu'ils perdent quelque chose.
Merci infiniment, Gérald Tenenbaum, d'être venu en direct, défendre les mathématiques, les mots, la francophonie aussi, des mots et des maths. C'est le titre de votre essai, donc passionnant pour tous ceux qui aiment les maths et les mots. C'est à lire aux éditions Odile Jacob. Et puis je renvoie aussi bien sûr sur vos romans. Le dernier paru s'intitule Reflet des jours mauves, aux éditions Héloïse d'Ormesson. Allez, j'en cite aussi un autre, Les Harmoniques, paru aux éditions de l'Aube. Merci à vous, Gérald.
Merci à vous.
Pour nous contacter, autour de la question, @rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur l'appli RFI Pure Radio et également sur Spotify. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et en reportage et Caroline Lachowski pour vous servir. Merci de votre fidélité et de votre curiosité sans cesse renouvelée. Merci également pour votre interactivité sur nos réseaux sociaux. Gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure d'un prochain journal. Thank you.